Nous avons en effet organisé les conférences magistrales sur les trois volets. L'apologétique que je vais conclure aujourd'hui autant qu'il est possible. Ensuite, on va embrayer, donc l'apologétique, c'est les raisons d'être chrétien. Ensuite, les trois conférences suivantes, ça sera les raisons de ne pas être chrétien. Mais évidemment, on vous donnera en même temps le mode d'emploi pour montrer qu'elles sont vaines. Donc, pour répondre aux défis de l'agnosticisme, de l'islam et du sécularisme. Et puis, en troisième volet, ce sera comment être chrétien, ce qu'est la vie chrétienne avec les grands axes de la foi, l'abbé Lucien, de la morale, le père Augustin des chanoines réguliers, de la grâce, et puis l'église comme mystère, par monsieur l'abbé Guillard, en conclusion, samedi soir. Il y aura une petite permutation pour que nous ayons Jean Madiran dans l'après-midi, étant donné son grand âge, il a demandé de passer dans l'après-midi, et monsieur l'abbé Guillard, gentiment, a accepté de passer le soir. Donc, la crédibilité de l'église. Est-ce que l'église est crédible? Alors, il y a deux voies pour montrer cela. Une voie qui est peut-être plus radicale, qui consiste à montrer qu'en effet, le Christ est le légat de Dieu, est l'envoyé de Dieu. On a même vu avec M. l'abbé Robin qu'il est crédible d'affirmer que le Christ est Dieu lui-même. Et donc, la première voie consiste à regarder si l'Église catholique est bien la société qui a été voulue par le Christ, telle qu'on le voit dans les évangiles. Et si historiquement il y a une continuité entre ce que le Christ a voulu, ce qui a été fait par les premiers apôtres et ce qui se trouve aujourd'hui. Alors cette voie-là, nous ne la suivrons pas, peut-être on la réservera pour une autre année du RJC, peut-être l'année où on se concentrera davantage sur le mystère, sur la foi, donc on insistera davantage sur les miracles, etc. Donc ça c'est la première voie, l'Église est crédible parce qu'elle est bien la société mandatée par le Christ qui est le légat de Dieu, et qui est Dieu lui-même. Il y a une deuxième voie, alors peut-être plus nuancée, mais je crois qu'elle est assez enthousiasmante, c'est de voir que l'Église en elle-même est un signe de crédibilité. C'est-à-dire, si vous voulez, quelque chose qui nous incite à donner l'adhésion interne de notre cœur à la lumière de Dieu lorsqu'il nous donne la grâce de la foi. Donc, saint Thomas dit, celui qui croit ne croirait pas s'il ne voyait que les choses qu'on lui propose sont crédibles. C'est très très important dans la démarche du christianisme. Il y a le miracle, si vous voulez, enfin tous les signes de crédibilité, dont le miracle, qui montre à la raison que ce qu'on va lui demander n'est pas absurde. Et puis, il y a un mouvement intérieur, sous l'impulsion de la grâce, qui meut la volonté et qui elle-même détermine l'intelligence à recevoir une lumière donnée par Dieu, qui est la foi. Et donc, c'est quelque chose de très beau de voir que le mystère chrétien s'embraye, si vous voulez, sur la raison, tout en la dépassant, évidemment, d'une façon merveilleuse. Mais là, nous allons suivre, pour montrer que l'Église catholique est crédible, la voie qui consiste à la regarder en elle-même, telle qu'elle est et telle qu'elle se présente aux hommes de bonne foi. Elle présente des caractéristiques qui en font, nous dit le Concile Vatican I, dans un très beau texte que je vous ai mis au début du résumé, lequel texte est repris pour l'essentiel, il y a une toute petite partie qui n'est pas citée, est repris par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 812. L'Église elle-même est un grand et perpétuel motif de crédibilité et un témoignage irréfutable ou irréfragable de sa mission divine. Alors c'est intéressant, je pense qu'il faut à la fois, c'est intéressant et c'est opportun, parce que vous savez qu'on est dans une époque où l'Occident se bat sa coulpe à tour de bras, et l'Église, anticipant ou suivant le mouvement, où les hommes d'Église plutôt ont tendance à multiplier les repentances, et la repentance à répétition à tout propos, on souligne les péchés des hommes d'Église, on en demande pardon, etc. Habituellement, c'est des péchés qu'on n'a évidemment pas commis soi-même, mais qu'ont commis nos grands-parents ou nos arrière-grands-oncles. Et donc, c'est, je pense, il y a un côté un petit peu, enfin, à mon avis, fondamentalement équivoque dans les repentances, celles qu'elles sont pratiquées actuellement. Je dis avec tout le respect que je peux, mais quand même, j'en suis convaincu et on a terminé à écrire là-dessus. Mais justement, pour un peu l'antidote, si vous voulez, de la flagellation repentique, je crois qu'il faut que nous regardions l'Église, qui est belle. Vous voyez, et même au regard d'un homme de bonne foi, vous voyez, d'un agnostique de bonne foi, combien d'exemples avons-nous dans le siècle passé, j'espère dans ce siècle aussi, que quand on regarde l'Église, elle est étonnante pour l'homme qui la regarde avec les yeux de l'honnête homme. Je ne dis pas les yeux du journaliste, hein. Bon, ni même les yeux de la foi, évidemment, vous, c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est les yeux de la foi. Mais ça va assumer ce regard de, quand même, qui déjà naturellement est étonné par l'Église. Je vous donne une petite anecdote, j'ai eu le malheur d'être agnostique pendant 5 ou 6 ans, et je me trouvais en classe préparatoire scientifique avec un camarade qui était encore plus agnostique que moi, ce qui était pas mal quand même. Et alors, comment pour se détendre un peu des maths, on faisait de l'histoire, là, c'était un champion en histoire. Il m'écrivait tous les noms des connétables et maréchaux de France sur le tableau noir de ma chambre. Bon, ça nous distrayait. Et puis, alors, il me disait, tu sais, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc très intéressant. Il connaissait très bien l'histoire du Moyen-Âge. À mon avis, l'élément le mieux, au point de vue de la civilisation, au point de vue humain, du Moyen-Âge européen, c'est le siège apostolique, c'est la papauté. Et le gars était agnostique, il avait fait un doctorat d'histoire après, j'ai vu ça dans l'annuaire des anciens. Et oui, c'est un témoignage quand même intéressant. Donc l'homme de bonne foi, s'il regarde l'Église telle qu'elle se présente elle-même avec ce qu'elle a fait, voit un certain nombre de signes, de notes qui sont quand même exceptionnels et dont l'ensemble, si on prend tout l'ensemble de ces notes, il faut peut-être pas forcer chacun des éléments, mais si on prend tout l'ensemble, ça fait un témoignage magnifique de la véracité de cette société qui sort, qui dépasse, si vous voulez, les capacités habituelles des hommes. Donc le Concile Vatican I cite plusieurs chefs, non pas d'accusation, mais au contraire d'exaltation. Vous savez, dans les prières léonines que Léon XIII a rajouté après la messe, si vous voulez, donc dans les prières, dans les messes privées du rite traditionnel, on fait les prières léonines pour protéger l'Église contre les attaques du rationalisme, etc., qui sont déclenchées depuis un siècle et demi. Et on dit, donc, on prie pour l'exaltation de la Sainte Église. Donc, vous voyez, c'est, voilà, on a des titres d'exaltation. C'est qu'en fait, l'Église est une belle chose, hein, très, très enthousiasmante. Et malgré et au travers des péchés, bien sûr, il faut pas être naïf, hein, il faut aussi parfois exercer la correction fraternelle, même la correction filiale. Vous savez que nous sommes parmi ceux qui l'ont fait, peut-être quelquefois avec une modalité un peu radicale, mais enfin, on l'a fait, on ne regrette pas de l'avoir fait, et on continue dans la mesure où c'est nécessaire, parce que l'autorité a besoin que ceux qu'elle dirige l'éclairent sur ce qu'éventuellement elle ne verrait pas elle-même. Mais cependant, c'est quand même bien encourageant de voir qu'en même temps, il y a tous ces motifs qui font de l'Église une société absolument merveilleuse, admirable. Comme disait, je crois que c'était un type qui voulait faire une nouvelle religion. Alors, il présentait ses plans à Napoléon Ier, qui lui disait, ben, écoutez, moi, je vous donne un bon conseil, hein, pour faire une nouvelle religion, vous faites crucifier, vous ressuscitez le troisième jour, et puis on voit après, quoi. Le gars, il l'a pas fait. Ou l'histoire aussi, c'est encore le Napoléon qui disait à un cardinal, mais si vous vous opposez à moi, je détruirai l'Église. Mais si c'est impossible, nous-mêmes, nous n'avons pas réussi. Et c'est vrai, parce que on dit aussi « Roma veduta, fede perduta », celui qui voit Rome perd la foi. Alors je disais ça une fois, quelqu'un qui a travaillé 25 ans à Rome, il dit, pas du tout, j'ai vu des gens très intelligents, très bien à Rome, il y a tout, hein, quand même, toute chose humaine, mais il y a aussi de bonnes raisons de perdre la foi. C'est vrai, il faut voir objectivement qu'il y a la faiblesse humaine partout, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette faiblesse, il y a un vaisseau qui a traversé 20 siècles et qui présente les caractéristiques que nous allons dire. Alors, le Concile Vatican I et le catéchisme de l'Église catholique, reprenant cet enseignement, parle de l'admirable propagation de la foi chrétienne. Et dès 64, au témoignage de Tacite, donc il y a différents témoignages contemporains extra-testamentaires ou en dehors de l'Évangile, il y a à Rome une multitude énorme de chrétiens. Et ces chrétiens sont dans toutes les classes sociales. C'est très intéressant, contrairement à l'accusation de Nietzsche qui disait que le catholicisme était la religion des esclaves. Alors c'est vrai, les esclaves aussi sont rentrés dans le catholicisme. Mais il y avait aussi des gens dans la maison de l'empereur, dans la maison du Basileus, de Néron, et puis des grandes dames, des patriciennes, et il a même fallu freiner leurs ailes dans la libération des esclaves, parce que ça aurait vraiment posé de graves problèmes. Et donc il y a eu vraiment dans toutes les classes sociales la diffusion d'une religion qui venait de l'Orient, qui était portée par un peuple méprisé par les élites hellènes et romaines de l'époque, en l'espace d'une génération humaine, et ensuite quelques-unes, ils ont vraiment rempli l'échiquier social et de toutes les régions, toutes les provinces de Rome, et avec des exemplaires d'humanité intéressants. Et c'est étonnant parce que, vous voyez, la diffusion de cette religion ne s'explique pas trop, enfin certainement pas, par des moyens humains comme la coercition, comme la facilité, comme... Il y a un parallèle entre la diffusion, un peu mystérieuse, il est vrai, mais quand même on la connaît, de l'islam, dans ses toutes premières décennies, et celle du christianisme, dans le même temps de jeunesse, si vous voulez, qui est tout à fait impressionnant en faveur du christianisme. C'est le texte que je vous avais donné au dos du résumé sur foi et raison, donc pas dans cette feuille-là, mais j'en ai encore quelques-unes, ceux qui n'étaient pas là, la comparaison que saint Thomas, pour montrer que ce n'est pas légèreté que de donner son assentiment aux choses de la foi, donne comme principal motif de crédibilité l'admirable propagation du christianisme au travers de l'Empire romain. On a affaire à une religion qui n'a aucun appui humain. Vous voyez, bien qu'il y ait des chrétiens dans toutes les classes, au début, il n'y avait vraiment aucun appui social, institutionnel. Elle est persécutée rapidement par le pouvoir, une série de grandes persécutions sanglantes qui vont s'étendre sur 2 siècles et demi. Quelques-unes sont vraiment terribles. Elle est contraire aux idées reçues tant du spiritualisme, enfin du monothéisme juif qui s'opposait à son universalisme, qu'aux idées reçues des païens dont elle combattait le polythéisme. Et puis, elle prêche un dogme qui dépasse l'intelligence. On a insisté là-dessus, l'abbé Robin, en parlant de la Trinité. Ce que l'Église propose à croire dépasse les capacités naturelles de la raison. Or, il y a des gens qui y croient. C'est quand même étonnant. Et ce ne sont pas forcément des imbéciles. Il y en a quelques-uns. Mais je vais vous dire une bonne chose. En précisant qu'isotrope, ça veut dire égal, pour le terme que je vais employer, ceux qui n'ont pas fait de physique, isotrope, ça veut dire égal dans toutes les directions. La répartition des imbéciles est isotrope dans tous les groupes sociaux. Enfin, c'est une de mes thèses, celle des cinglés, des psychorigides, des intégristes, etc. Enfin, si on prend intégriste, les gens nous cassent les pieds souvent avec des trucs comme ça. Je dis, attendez, moi je connais bien des tas de gens, chez les progressistes, les socialistes, les tout ce que vous voulez, les charismatiques, les cathos, etc. La répartition des fous et des casse-pieds est isotrope. Bon. Alors, ceci étant établi, il y a quand même des gens intelligents dans le christianisme, quoi, quelques-uns. Par exemple, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin ou Benoît XVI. Bon, on peut faire de personnalité, comme on dit. Mais donc, ça prêche un dogme qui dépasse l'intelligence et une morale qui est difficile, qui est même impossible aux forces naturelles de la nature déchue, dans un milieu de mœurs extrêmement dégradé. Nous avons la chance ou le malheur de vivre dans une époque qui peut rappeler, à certains égards, les mœurs du Bas-Empire. Par certains aspects, empire, bon. Mais c'était quand même, c'est un beau match entre nous et le Bas-Empire, c'est vraiment extrêmement décadent, et puis une pression, un socialisme d'État, enfin, la décadence de l'Empire romain, c'est quelque chose. Bon. Donc, dans ce milieu-là, ça se diffuse, et c'est diffusé par des gens qui n'ont pas étudié au lycée, ou au portique, enfin, Athènes, ou Alexandrie, ou dans les grands centres, de culture de l'époque, où ils n'ont pas étudié là, ce sont des juifs qui sont de différentes extractions sociales, mais dans l'ensemble, ils n'ont pas une énorme formation, on le voit. Bon, Saint Paul est cultivé, Saint Jean aussi, mais pas forcément les autres. Et leur latin, leur grec, enfin, n'est pas d'une littéralité, même, ça sera un des obstacles pour Saint Augustin. Enfin, ce n'est pas des gens qui appartiennent vraiment à l'élite extrêmement raffinée. Bon, ils ont prêché ça et ça s'est répandu. Alors, comment ça s'est répandu? Eh bien, Saint Thomas le dit, ou bien il y a eu des miracles, parce que les gens ne donnent pas leur adhésion à des choses qui ne sont pas attestées, et bon, c'est une preuve, ou bien ça s'est fait sans miracle, et c'est un miracle que ça se réponde sans miracle. Enfin, c'est pas un sophisme, c'est Saint Thomas qui dit ça. Qu'une religion pareille, vous voyez, si on suppose, parce que le christianisme a toujours dit, il y a eu des miracles à l'origine du christianisme, il y en a encore, Saint Thomas nous dit évidemment, le résultat le montre, parce que c'est quand même pas, on va pas se convertir à quelque chose de contraire. Je vais vous citer un petit passage de Saint Thomas. Voilà une religion donc, qui se répand sous toutes les conditions que j'ai dites, qui réprime les voluptés de la chair, qui enseigne à mépriser tous les biens de ce monde, que les esprits des mortels donnent leur assentiment à tout cela, et qu'au mépris des réalités visibles, on le voit bien aujourd'hui, on nous dit, vous êtes les chrétiens, vous êtes fous, profitez pas de la vie, enfin, on en profite sans doute mieux que ceux qui sont pas, comme Dominique Morin vous l'a expliqué, on aime le plaisir, mais dans l'ordre. Je disais beaucoup cette phrase Saint-Jean Chrysostome. Nous aimons le plaisir plus que vous, païens, mais dans l'ordre. Donc finalement, on est plus heureux, même s'il y a moins de jouissance, disons, dans un certain ordre, mais quand même le tout fait qu'il y a une béatitude. Mais on méprise les biens de ce monde. Que les esprits mortels fassent ça, et désirent les biens invisibles, voilà certes le plus grand des miracles, et l'œuvre manifeste de l'inspiration de Dieu. Oui. Donc c'est quelque chose d'impressionnant, que cette propagation du christianisme, je crois qu'il faut le maintenir, contre les falsifications historiques. Heureusement, vous êtes d'une génération qui dispose d'un certain nombre de livres que nous n'avions pas il y a 30 ou 35 ans. Il y a eu un certain nombre de livres, procurez-vous la petite bibliographie chrétienne que François Edme peut mettre à votre disposition, je pense, qu'on a préparé, avec certains titres d'apologétiques très percutants, pour redresser en particulier les calomnies sur l'origine du christianisme. Alors ça, c'est le premier chef. Vous voyez, elle se répand d'une façon qui dépasse la raison humaine. Ensuite, dans cette société, il y a la sainteté, c'est-à-dire une moralité, une union à Dieu qui dépasse la moyenne de ce que les hommes peuvent faire si on les laisse à eux-mêmes, et même si on fait une étude comparative des religions, ce que j'ai un peu fait dans ma période de divagation et puis après, le christianisme tient largement la comparaison. Oui. Surtout si on compare bloc à bloc, l'ensemble du peuple, d'une part avec l'ensemble du peuple chrétien ou hindouiste d'un côté, ou musulman, et puis les élites, et puis le clergé, dans les religions il y en a. Et le christianisme tient largement la comparaison. J'ai mis ici dans le résumé, je ne vais pas les détailler parce qu'il y en a trop, j'ai fait deux parties dans l'éminente sainteté, dans l'ordre physique, si vous voulez, les signes, enfin donc les miracles dont on a parlé, les signes qui sont produits pour attester la vérité du christianisme. Donc ces signes, qui ont été très abondants au début du christianisme, saint Thomas nous dit ça suffit. Vous voyez, il n'y a pas besoin de courir après de nouvelles apparitions, même si on va à Loublande tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin de courir après, parce que celui à qui ça ne suffit pas, vous voyez, nous dit saint Thomas, son cœur est plus dur que la pierre. Parce qu'il y a eu il y en a eu une telle abondance. Bon, de temps en temps, il y en a quelques-uns pour manier l'ambiance, surtout pour rectifier les mœurs. Donc c'est bien qu'il y ait des apparitions, mais il y en a déjà eu tout un tas. Et donc, elles ont eu lieu grâce aux dons qui étaient donnés aux apôtres et aux pères apostoliques, aux premières générations de chrétiens, et ça continue plus ou moins, les charismes, donc, des grâces spéciales qui ne sont pas pour le bien de celui qui les reçoit, mais qui sont pour le bien commun de l'Église, et tous ces grâces, tous les miracles en particulier, sont ordonnés à la vérité. C'est extrêmement impressionnant, on le verra peut-être en détail l'année prochaine, tous les miracles sont ordonnés non pas à faire des prodiges qui épatent, mais à prouver la vérité de quelque chose. Et ici, la vérité de la prédication de ceux qui le faisaient. Donc je saute un peu là-dessus, vous les parcourez, j'ai mis quelques exemples de saints qui ont été dotés de ces charismes dont les apôtres regorgeaient, si j'ose dire, et c'est quand même vraiment très impressionnant. Il ne faut pas se focaliser peut-être sur tel ou tel, mais qu'il y ait eu une telle abondance, qu'il y en ait eu tellement. Je lisais récemment un texte, parce que j'ai eu la chance d'aller au Mont Athos il y a de nombreuses années, et j'ai lu un livre qui, un peu à mon avis, le Bréviaire moderne du Mont Athos, très bien présenté pour nous occidentaux. Et alors il y a un des moines qui dit, bon, il y a un certain nombre de signes dans un certain nombre de monastères, parce qu'il peut y avoir également des signes en faveur de la partie exacte des groupes schismatiques, bon, la divinisation de l'homme par la grâce, la présence réelle, etc. Et alors le moine disait, mais les miracles, nous, ça ne nous étonne pas. Ce qui nous étonne, c'est que les fleurs fleurissent, enfin, c'est la beauté des choses que Dieu a faites, quoi. Et c'est vrai que dans une perspective de foi, les miracles, c'est bon, comme ça, mais ce qui était vraiment étonnant, c'est que Dieu, c'est Dieu, quoi, et qu'il ait fait le monde, et qu'il nous ait gracié, et qu'on ait la vie divine, ça, c'est extraordinaire. Les miracles, c'est pour nous renvoyer à ça, oui, toujours. Et qu'on voit dans la vie des saints, c'est toujours pour nous renvoyer à la sanctification, et à la divinisation que nous donne la grâce, qui est quelque chose d'absolument prodigieux. Et donc on a eu ces charismatiques, au sens fort du terme, qui ont en effet attesté de la vérité de la religion, et qui, l'une d'entre vous me disait qu'au Liban il y a encore des cas comme ça, il y en a eu en Égypte, pour soutenir, si vous voulez, la moralité des chrétiens, et raviver leur foi. Bon, il y a ces signes qui nous ouvrent le cœur, vous voyez, dans une direction. Alors, ça peut être des signes tout à fait éclatants, ça peut être des signes plus modestes, intérieurs, voilà, chacun a son chemin. Il y a quelque chose qui le frappe, et très souvent, bon, Dominique Morin vous l'a dit, l'expérience de la miséricorde est une sorte de... Enfin, je ne dis pas que c'est un miracle, mais le fait de ressentir ça, on se dit, mais les gens qui font ça sont crédibles, quoi. Vous voyez, le fait qu'on pardonne, moi j'ai confessé donc au Liban après la guerre, la première, malheureusement, parce qu'on les numérote maintenant. Et le problème des gens que je confessais, c'était qu'ils se demandaient s'ils pardonnaient. Et de fait, je m'aperçois en parlant avec eux, j'arrivais à les absoudre, parce que je crois qu'ils pardonnaient dans leur volonté, dans la pointe de l'esprit. Mais quand vous avez eu votre mère assassinée ou débitée à coups de tronçonneuse, c'est quand même difficile d'avoir une grande délectation dans le pardon. Mais le fait que la volonté pardonne, hein, pour le Christ, c'est un miracle. Et le christianisme, en effet, est miraculeux. Comme ça, que nous-mêmes nous soyons pardonnés, ça doit nous émouvoir à tel point qu'on se dise, ben, c'est vrai, quoi, parce que c'est pas possible que les hommes pardonnent entre eux. Enfin, on le sait bien avec depuis Nietzsche et puis l'existentialisme moderne. Hein. L'enfer, c'est les autres, ça. C'est vrai du côté de la nature déchue, quoi. Donc le pardon, si vous voulez, à faire que l'autre rentre dans ma sphère de vie, que vraiment je me venge de son offense par le pardon. Voilà, donc il y a tous ces signes très impressionnants qui, certains d'entre eux se trouvent, je vous l'ai dit, dans des groupes dissidents, en particulier dans l'orthodoxie, mais il n'y a pas tous les signes en même temps. C'est ce que dit le texte très précisément, c'est à l'Église catholique seule qu'appartiennent l'ensemble des signes. Oui. Donc c'est ça qu'il faut bien voir. Il ne faut pas aller nier les choses, peut-être... Il faut aller les vérifier, parce que souvent ça peut être bidon, hein. Mais il y a quand même de véritables prodiges, Saint Séraphim de Sarov, que sais-je. Et puis dans l'ordre moral, vous voyez la sainteté, quand je vous dis on fait la comparaison bloc à bloc, des peuples avec les peuples, des élites avec les élites, le christianisme est quand même magnifique, et le catholicisme en particulier, qui est le vrai christianisme univers, tourné vers la totalité ordonnée, catholone, hein. Il y a quelque chose d'absolument merveilleux, vous voyez, Bergson avait fait une analyse des différents mystiques, donc des élites, des différentes religions, Et il voyait très nettement, vous voyez, que le mystique chrétienne, donc ce à quoi nous sommes tous appelés, mais dans les exemplaires les plus réussis, ouvre sur les autres. Sainte Thérèse d'Avila, arrivée à l'union transformante, s'occupe de fonder des monastères. Et la mystique d'une mère Thérèse ou d'un Padre Pio, qui était bon, eh bien, ça les ouvre à l'Église, ça les ouvre aux autres. Alors que, par exemple, la transformation bouddhique, enfin, consiste à s'abstraire du monde, à sortir de l'illusion. Et si on arrive nous-mêmes à ça, par condescendance peut-être à se réincarner pour faire sortir les autres de l'illusion, mais c'est vraiment une miséricorde d'un tout autre type. Oui. C'est vraiment le but, c'est de s'abstraire, c'est de sortir. Et ceux qui ont connu des monastères catholiques à côté de, par exemple, c'était le cas de Marcel Clément, qui en témoigne, connu l'influence d'un monastère bouddhique à côté d'un monastère cistercien au Tibet ou je sais pas où. Bon, la différence est quand même patente. Quoi. Et patente, c'est pas, on peut dire qu'il n'y a pas très très grande chose. Je lisais ça dans les mémoires de Général Salon, qui a eu contact avec, dans la période où il était au Laos, avec des moines bouddhiques, qui étaient évidemment extrêmement impressionnants. Il y a des grandes choses, il ne faut pas mépriser ce qu'il y a de grand, mais c'est une différence d'ordre, comme disait Pascal, qu'on a un petit peu écorché, à juste titre, mais sans dire pourquoi, à la conférence d'Abélicien, mais qui a aussi écrit de très belles choses, une différence d'ordre, vous voyez. Donc il y a une sainteté moyenne, si vous voulez, dans l'Église, et une sainteté des élites, qui distingue, si vous voulez, le catholicisme, le christianisme et le christ-catholicisme des autres groupes religieux. Il y a trois signes qu'on peut relever, le martyr, la vie religieuse et les missionnaires. Le martyr, donc, c'est la constance, enfin en 2000 ans, une constance extraordinaire à témoigner de la vérité. C'est très intéressant, le catholicisme est vraiment axé sur cet axe de la vérité. Dieu est amour, c'est certes, et Dieu est amour parce qu'il est vérité. La vérité qui se communique, qui se donne à nous, sanctifiez-les dans la vérité, dit Saint Jean dans chapitre 17. Eh bien, voilà, constamment, depuis 2000 ans, au XXe siècle, de façon extraordinaire, des hommes de toutes conditions, de toute faiblesse et toute force, ont donné leur vie pour confesser les grandeurs de Dieu. C'est quand même quelque chose de très très impressionnant, ils ont parfois converti leurs persécuteurs. Le désir de l'éternité. Vous voyez, la vie religieuse, enfin, ou le célibat consacré des ministres sacrés dans l'Église latine, et puis aussi ceux de l'Église orientale qui sont célibataires, c'est une démonstration de l'éternité. Ce sont des sentinelles, Jean-Paul II disait à propos de la femme, est la sentinelle de l'invisible. Je crois que le religieux ou le prêtre est la sentinelle de l'éternité. C'est l'homme de Dieu, quoi. Tu es l'homme de Dieu qui, justement, et ça provoque justement ceux qui mettent vraiment leur finalité en une fécondité temporelle, enfin un aspect de leur finalité, parce que c'est une fécondité surnaturelle qui serait absurde en dehors de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il y a un effondrement des vocations, parce qu'on ne prêche plus les fins dernières. Procurez-vous la bonne littérature là-dessus. Hein. On ne prêche plus les fins dernières, et s'il n'y a pas un enjeu de vie éternelle, bon, bah, il vaut mieux aller faire du surf, ou de la planche à voile, du karaté, de la politique et de l'astrophysique. Hein. Enfin, pour mon compte, ce que j'aurais fait, quoi. Entre autres. Hein. Voilà. On peut s'occuper, mais plutôt faire. Moi, j'aurais plutôt fait péter la planète, je crois. Mais bon. Chacun ses goûts, hein, il y en a pour tous les... Mais je crois que la vie religieuse, vraiment, et ça, vous n'en avez pas chez les protestants, ça n'existe pas, ou de façon très exceptionnelle, ça existe dans l'orthodoxie, dans le catholicisme. Voilà, et le zèle a donné Dieu aux hommes, les missionnaires, enfin, qui sont vraiment des gens admirables, hein, vraiment très touchants. Et donc c'est ce zèle missionnaire qui est de partir, enfin, le 31 juillet, les jésuites ouvraient leur enveloppe, ils étaient envoyés... soit à Madagascar, soit en Indochine, donc dans un cas ils mouraient de la malaria, dans l'autre cas on leur coupait la tête, enfin donc 31 juillet, pof, ils partaient pour leur vie, parce qu'il n'y avait pas les avions à prix réduit avec un samedi soir là-dedans, hein. Donc on partait, hein. Et au revoir tout le monde, hein. Alors il y avait une liste des martyrs et ça enthousiasmait les gens, ouais. Donc c'est quand même pas, et c'était pas des cinglés, vous voyez, parce que le martyr, c'est important de faire une grande différence entre le martyr véritable, qui prie pour la conversion de ceux qui le mettent à mort, et le type qui dit « je vous tue tous parce que vous êtes des infidèles ». Quoi. Donc le terme « martyr » employé au soi-disant « martyr de l'islam » est quand même extrêmement équivoque. Quoi. Parce que c'est dans l'acte même, justement, on va témoigner de la vie, on tue les gens. Quoi. Bon, alors quand même, il faut pas se laisser compter. Le martyr chrétien est très différent. Et c'est là où je vous ai dit qu'il ne faut pas isoler les choses. Vous avez des fêtes, mais si vous en isolez un, vous trouverez des prétextes à le contester, forcément. Et le martyr, justement, quelqu'un, par exemple, dans les règles de canonisation d'un martyr, s'il a provoqué le persécuteur avant, la cause est arrêtée. Et il y a la prudence, il ne faut pas provoquer le persécuteur. Mais une fois que le persécuteur vous a attrapé, on voit dans l'histoire de Thomas More, eh bien, il faut, avec humour, ou je ne sais comment, en préparant son mot de la fin ou pas, il faut affronter ça, quoi. Mais voilà, bon, mais il ne faut pas calculer avant, quoi. Mais ça se présente aussi, c'est plutôt sympa, quoi. Enfin, disons oui, enfin, sous un aspect. Bon, mais qu'il y ait des gens, ils ne sont pas cinglés, c'est ça qui est frappant. Vous voyez les derniers mots de Thomas More et d'autres. Récemment, il y en a un de nos pères qui citait le mot d'un. D'un des Cristeros. Un type, un jeune avocat de la Ligue des Cristeros, qui était torturé, il sera coupé par Thibault et tout et tout. Et alors le général le torturait toujours pour le faire dire où étaient les autres. Alors, il n'a rien dit. Et puis au moment, avant de mourir, il a dit écoutez, général. Bon, je vais paraître devant Dieu, vous aussi, dans quelques instants. Je pense que vous aurez besoin d'un bon avocat et je me propose de plaider votre cause. C'est quand même assez fort, quoi. Parce que garder l'humour à ce moment-là, on n'a pas pu l'expérimenter. Genre, pour l'expérimenter, on sera à deux pas de la rencontre, j'espère. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de bien. Puis justement, la variété des saints. Il y a des saints austères, des saints qui ouvrent les portes pour avoir froid, comme Saint-Pierre d'Alcantara. Et puis, il y a des saints qui rigolent tout le temps, comme Saint-Philippe Néri, quoi. Donc, il y a tous les goûts. Alors, il ne faut pas absolutiser son saint aux dépens des autres. Et puis, alors, après ça, il y a l'inépuisable fécondité. L'Église est quelque chose qui est, vous voyez, la vie. Je me souviens, dans une conférence du Père Marie-Dominique Philippe, à un moment donné, il disait, avec sa voix impressionnante et cassée, le diable n'aime pas la fécondité. Voilà. Et c'est vrai que quand il y a une fécondité, dans l'ordre de la paternité spirituelle, dans l'ordre de la vie, on le voit bien aujourd'hui avec le combat pour la vie, il y a la haine du démon est déchaînée, parce que le démon, c'est la mort, enfin, on vous l'a expliqué. C'est vrai que, si vous en relit un peu, j'ai relu quelques romans de Bernanos sur le conseil de l'homme nouveau, il y a quelques temps, ils ont fait un dossier sur Bernanos, et c'est vrai que pour lui, et je crois qu'il a raison, parce que c'est aussi l'idée de Dante, ben, le centre de l'enfer, c'est de la glace, vous voyez. Tandis que le catholicisme, c'est chaud, mais c'est la chaleur. Voilà, l'enfer, c'est la mort. Enregistré et perpétuel, c'est la glace, quoi, dans la refus, dans l'isolement, dans la non-communication, donc avec l'horreur du dent. Bon, mais le catholicisme est fécond. C'est magnifique. Le catholicisme est fécond, et donc il déborde toujours, ils échappent toujours par un bout, en quoi le coincer, on n'arrive pas. On espère étrangler le dernier des prêtres avec les boyaux du dernier des aristocrates ou des rois, ça ne marche pas, il y a à nouveau des prêtres encore. Bon, c'est quand même marrant. Enfin, c'est marrant pour nous, mais pour eux, ils sont assez mécontents. Et c'est pour ça qu'on voit dans les exorcismes ou autres, ça. Le démon n'est pas très content, quand même. Mais tant mieux, parce qu'il faut lui envoyer un coup sur le coin de la tronche de temps en temps, avec de l'eau bénite ou de l'exorcisme. Mais il n'aime pas la vie. Il n'aime pas la vie. Donc si vous avez fondé une famille, si vous devenez religieux prêtre, si vous... donc ça fait con, et donc vous aurez forcément l'attaque du démon. Alors, fécondité, là, c'est un domaine tellement vaste, je trouve que ça rend lyrique, enfin c'est magnifique, dans le domaine intellectuel, politique et culturel, le Christian Way of Life, c'est quand même quelque chose de super. Intellectuellement, le christianisme a libéré la pensée. Enfin, disons, on dit que c'est les Grecs d'abord, c'est vrai. Ils ont inventé le logos, si on veut. Enfin, là, ils ont mis vraiment ça... Ils ont donné à l'homme l'instrument de l'intelligence dans son bon exercice. Bon, après, des tas de préparations. Puis il y a eu aussi d'autres choses ailleurs, en Chine, avec Confucius. Mais enfin, chez les Grecs. Et puis le christianisme a vraiment... par l'affirmation d'un Dieu créateur distinct du monde, par l'affirmation de la bonté de la création, du fait que Dieu remet l'homme à la main de son conseil, il a réussi à faire une synthèse extraordinaire qui harmonise la transcendance divine et le véritable humanisme, si vous voulez, dans un sens où on pourrait employer ce terme. Je pense, on discute, mais je crois qu'il y a un sens acceptable du terme humaniste, c'est-à-dire qu'il est l'homme à sa place dans l'ensemble du cosmos, au-dessus des êtres non doués d'intelligence, en dessous des anges et des hommes, et pour ce qui est du salut, directement, en relation avec Dieu, nous dit saint Thomas. Donc, à sa place, il y a un véritable humaniste qui sort du christianisme et qui ne se trouve pas ailleurs. Oui. Je suis frappé, par exemple, j'ai été amené un peu à réfléchir à l'islam, dont on vous parlera, il y aura deux conférences carrefour là-dessus. En fait, je crois que les gens qui passent à l'islam, qui se convertissent, ils ne se convertissent pas forcément, parce que souvent, ils n'étaient rien. Moi, je vais le citer à l'un d'entre vous, des cas de nos discussions qu'on a dans le métro ou ailleurs, de... catholiques apostats qui sont passés à l'islam pour avoir des exorcismes que les prêtres leur refusaient, quoi. Donc ils passent pas forcément pour des trucs faux. Et bon, évidemment, il y a la facilité, la simplicité, 5 points, barca, etc. Il n'y a pas de mystère. Il y a une mystique facultative. Le mystique musulman étant souvent hérétique, d'ailleurs. Donc la profondeur est facultative. Elle existe chez les soufis, chez d'autres. Mais enfin, en gros, c'est l'orthodoxie islamique qui était comme extrêmement formelle. Et c'est donc quelque chose de simple. Mais pourquoi les gens se convertissent à l'islam? À mon avis, ils se convertissent parce que l'islam affirme la transcendance de Dieu. Et Dieu, voilà, Dieu est transcendant, Dieu est au-dessus de l'homme. Et le christianisme, lui, enfin non, les chrétiens et beaucoup d'hommes d'église ont plus ou moins apostasié cette dimension. Dieu est un bon copain. Et en particulier, le Christ, c'est les différents modèles de Christ, libérateur, le copain, etc. Mais s'il n'est pas Dieu, je m'en fous. Il est sympa, il a au maximum le visage que lui a vu Renan, si vous voulez, c'est un... Bon, Mais moi, la morale, ça me casse un peu les pieds. Donc, si le Christ n'est pas Dieu, je marche pas, quoi. Il faut qu'il soit Dieu, vous voyez. Et donc, s'il est Dieu, c'est extraordinaire qu'un Dieu s'incarne et nous donne son amitié. Or, ça, l'islam, vous voyez, qui affirme la transcendance, affirme qu'il y a aussi une absence de communication entre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu ne peuvent pas nouer une amitié. Si vous affirmez ça, hein, vous pouvez avoir un amour mutuel entre l'homme et Dieu, partagé, dans la charité, dans l'amitié de charité, eh bien, vous êtes fondamentalement un associationniste, comme on dit, et vous êtes passible des peines prévues par la charia. Parce que c'est horrible. Il y a Dieu est tellement séparé que rien ne peut l'approcher. Et au paradis islamique, on aura les plaisirs de serviteur. Oui. Alors donc, c'est tout à fait, vous voyez, c'est là on voit que le christianisme associe, il affirme la transcendance de façon très très nette. Vous voyez, et, enfin, quand on lit la somme de théologie, moi, on voit vraiment une affirmation extraordinaire de la transcendance de Dieu. Hein, que c'est saint Thomas, c'est saint Jean de la Croix qui nous dit dans la prière, nourris-toi davantage de ce que tu ignores de Dieu que de ce que tu connais de lui. Vous voyez, donc c'est poussé très loin, on affirme aussi qu'on peut dire des choses sur Dieu. Mais il y a une affirmation extrêmement forte de ce mystère divin, et en même temps de cette amitié qui est réalisée par le Christ. Mais écoutez, c'est extraordinaire. Alors, il ne faut pas nier la grandeur qui attire les gens. Justement, ils vont vers l'islam parce que les chrétiens n'affirment plus la transcendance. Et donc, c'est absolument indispensable. Ça, je crois que les pédagogies traditionnelles dans l'Église catholique, latine, doivent revenir pour être une voie de conversion des beurs qui n'ont pas de porte de sortie, des musulmans qui sont écœurés de l'islamisme, enfin des élites musulmanes, etc. Et si on leur rappelle la transcendance, il y aura des conversions. De même que dans l'orthodoxie pure et dure des Grecs ou des Russes, ils aiment le pape actuel, et je crois que c'est parce qu'il affirme la transcendance. Vous voyez, j'ai été frappé de voir, j'avais un moine de mon Athos qui m'a téléphoné d'Athènes, enfin, heureusement il parlait le français, pour me demander d'envoyer des numéros de notre revue, Céleste Sapiensi, une excellente revue, et pas cher du tout, avec des tarifs tout à fait dégressifs pour les étudiants. Et alors, donc, il voulait des exemplaires. On lui envoyait gratos, évidemment. Et alors, parce qu'il disait, faire connaître, il disait, lui, moi, je suis catholique dans mon cœur. Je ne trouve pas d'évêque qui m'accepte. Parce qu'il y a des consignes qui disent, on n'accepte pas les orthodoxes dans l'Église catholique. C'est un archimandrite. Hein. C'est quand même triste d'entendre ça. Et alors, donc, envoyez-moi vos revues, parce que comme ça, je diffuse l'esprit catholique, et je montre aux orientaux que dans saint Thomas, on trouve quelqu'un qui conjugue la transcendance, l'affirmation de la transcendance et d'usage légitime de la raison qui nous conduit à affirmer cette transcendance, et puis la mystique. Ouais. Donc il y a une association des éléments apparemment très éloignés, qui est sublime, et qui est une marque, c'est beau, vous voyez. Les musulmans disent, les musulmans ne s'occupent pas de la crédibilité, ils disent, mais il n'y a pas besoin de s'en occuper, parce que c'est évident. Si tu nies Dieu, c'est évident, Dieu, c'est évident qu'il existe, c'est pas évident, mais c'est certain, mais c'est pas évident. Et puis le Coran, mais c'est évident. Il fait quelque chose d'aussi beau. C'est tellement beau que c'est évident que c'est vrai. Bon, alors moi je veux bien, d'abord il faut se taper 5 ans d'arabe. Hein. Moi je suis à la 221 de la 6000, donc je ne sais pas encore si c'est vraiment beau. Mais c'est peut-être beau, mais enfin, avouez que c'est quand même un peu léger comme argument de crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité fondamentalement dans l'islam. C'est une impureté, c'est un rôle de la raison. Nous, on a une beauté chrétienne qui est magnifique. Hein, qui est magnifique. Donc voilà, on associe la consistance de la nature et la gratuité de la surnature. Très important, surtout dans la grande perspective patristique et scolastique, on insiste beaucoup sur ces deux éléments. La nature est bonne en elle-même, la surnature soigne le péché qui marque la nature et nous élève à un degré infiniment au-dessus. Et puis la philosophie chrétienne, entre guillemets, dans le sens où ce mot peut être reçu, tire les conséquences rationnelles du dogme de la création et permet l'essor des sciences modernes. Ça, j'en suis persuadé, je pense que de plus en plus l'histoire des sciences le montrera. Ce qu'il y a de bon dans la modernité, en particulier la science dans son dimension contemplative, qui a quand même fait des progrès assez considérables, surtout depuis 100 ou 150 ans, et c'est tout à fait magnifique, les cieux chantent la gloire de Dieu, c'est vrai, je vous disais que l'inventeur, enfin si j'ose dire, du Big Bang est un prêtre, bon, eh bien, c'est le christianisme. Pourquoi? Enfin, le christianisme, ou du moins, spécialement le christianisme, mais les religions qui affirmaient, comme l'islam et le judaïsme, le christianisme, qu'il y avait un Dieu créateur distinct du monde. Parce que si un Dieu distinct du monde, le monde a une consistance et il est offert à la raison et à la culture de l'homme. Non pas à l'exploitation délirante, mais à son approfondissement, à sa recherche intellectuelle, etc. Et on le voit bien, c'est avec saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, et toute cette effervescence de la scolastique à la fois de Maïmonide, d'Avicenne, etc., que les choses ont démarré, que la philosophie a pu acquérir la relative autonomie des distinctions qui lui est nécessaire par rapport à la théologie, et que la raison humaine a exploré des champs magnifiques, parfois en les retournant contre Dieu, mais ils sont de droit, ils appartiennent au Christ. Il ne faut pas laisser la science moderne aux mains de ceux qui en guerroient Dieu de ses dons, comme disait Joinville. Et puis alors, dans le domaine politique, alors là ce serait un peu long, mais c'est un argument important, parce que moi je fais partie des gens qui ont été un peu, qui sont revenus au christianisme pour différentes raisons, catholicisme en particulier par l'argument politique, quoi. Les bienfaits politiques du christianisme, moi, me paraissent évidents. Quand vous passez d'un pays à l'autre où il y a une zone musulmane, une zone chrétienne, je sais pas, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, en respirant l'air, là, enfin, sauf s'il y a trop de bombes, parce qu'on respire rien du tout, mais on sait où on est. Le bienfait politique du christianisme. L'Église réalise, alors je le réaffirme, parce qu'il y a tellement de bêtises là-dessus, on l'évoquera à la dernière conférence, la distinction du temporel et du spirituel, et c'est une réussite quasiment unique dans l'histoire de l'humanité. Partout ailleurs, les choses sont soit complètement séparées, comme on le voit dans la modernité, c'est une catastrophe, soit confondues, comme c'est le cas dans l'islam, mais dans d'autres perspectives aussi. Donc la consistance d'un ordre temporel qui est remis aux laïcs avec leurs propres responsabilités, le fait que la nature soit consistante, que l'ordre temporel qui sert de tremplin, si vous voulez, à l'ordre spirituel, mais qui est lui-même qui existe, ça vient du christianisme. Et ça a des conséquences extrêmement bénéfiques. Extrêmement bénéfiques. Parce que ça honore à la fois l'objectivité du bien commun et la dignité de la personne humaine. Si vous êtes chez les Grecs, par exemple, ce qui compte, c'est le bien commun. Je citais peut-être dans une conférence, que nous disait Marcel Decort, nous avons eu la chance de rencontrer avec l'abbé Lucien, qui a fait des dizaines d'années de réflexion sur la pensée grecque, la personne n'affleure pas. La personne, on s'occupe du bien commun, de la nature. Vous voyez, il y a les citoyens qui dirigent, enfin la société, les 10 000 qui ont le droit de vote dans la boulet à Athènes, servi par 250 000 esclaves. Hein. C'est ça la démocratie grecque. Hein. Je vous le précise au passage. Hein. Je le dis souvent parce que, quelquefois, les gens, ils ont des idées un peu drôles. Mais enfin, ce qui compte, c'est le bien commun pour eux. Vous voyez. Et ça, l'homme n'a pas de sens en dehors du bien commun. C'est quelque chose de vrai, de fort, vous voyez. Mais c'est le christianisme qui va dire, oui, mais il y a la personne qui, ne pouvant se développer que dans le cadre de ce bien commun, et étant au service sous beaucoup de rapports de ce bien commun, a une dimension éternelle et un rapport avec Dieu qui fait qu'elle a un mystère qu'on doit respecter, même si elle est handicapée, même si elle ne peut rien produire pour la société, même si elle est vieille, même si elle n'a pas encore 9 mois dans le sein de sa mère, etc. Donc il y a des conséquences politiques éclatantes. En particulier le statut de la femme, c'est quand même, je crois, important de voir et de rendre. Actuellement, les faux féministes combattent l'Église avec ce que l'Église a mis entre leurs mains, et avec aussi des erreurs, à savoir que l'égale dignité en nature de l'homme et de la femme, ça, c'est le christianisme qui l'enseigne. Vous voyez, même, par exemple, on voit dans le récit des apparitions de la résurrection, le témoignage des femmes n'est pas valide. Dans le droit de la Mishnah, il faut que ce soit des hommes qui témoignent. En islam, vous avez encore des choses comme ça. Donc, c'est l'Église qui, peu à peu, dégager ses conséquences de ce qu'on appelle le droit naturel secondaire, qui est assez subtil, hein, c'est délicat, et qui a mis la femme à l'endroit où elle doit se trouver, et maintenant la femme le quitte, et c'est pour ça que notre société, je pense, s'effondre. Hein. Parce qu'il n'y a plus de femmes, donc il n'y a plus d'hommes. Alors moi, comme éducateur, je vous dis, femmes, soyez des femmes. Soyez habillées comme des femmes, pensez votre vie comme des femmes, parlez comme des femmes, parce que sinon il n'y aura plus d'hommes, et s'il n'y a plus d'hommes, c'est une catastrophe. En particulier le développement de l'homosexualité, l'absence de prise de responsabilité, l'adolescence jusqu'à 45 ans et demi, etc. Là, je pousse un peu, parce qu'avant, j'étais jusqu'à 30 ans, mais maintenant, on rallonge, quand il y a égalité, on rallonge des temps de... Bon. Et donc, ça, c'est vraiment le christianisme, je crois, qui nous apporte ce rôle de la femme avec cette distinction et cette égalité substantielle qui fait que la femme, même les sexes, ont une influence politique et spirituelle qu'ils doivent retrouver. Je crois que c'est un des grands enjeux du combat que vous aurez à mener dans la longue vie qui vous attend, parce qu'avec les antibiotiques, pour certains d'entre vous, c'est pour 70-75 ans qui a tiré. Mais ça sera magnifique, hein. On espère que vous allez faire des tas de choses. Voilà, et en particulier des bonnes vocations et bonnes familles. Donc, dans le domaine politique, l'Église est la seule qui enseigne et protège l'intégralité de la loi naturelle. Je le signale au passage, parce qu'il y en a un peu marre des calomnies. Il faut réveiller en nous la capacité d'indignation. Pas au point où nous étouffer, il faut quand même pouvoir garder son calme, pour placer ses coups charitables à bon escient. Mais il faut s'indigner quand même un peu. C'est quand même incroyable qu'on tape sur l'Église à tour de bras avec des arguments complètement débiles en l'accusant d'être assassine, etc. Alors que c'est elle qui défend la loi naturelle. Mais qui la défend? Qui défend les points essentiels de la loi naturelle? Il y a une phrase qu'aimait bien un père que nous avons connu, hein, prêcheur des retraites, de Saint-Ignace. Hein, et il était spécialiste de la théologie du mariage. Et il disait, en citant Pie XI dans Cassiconubi, donc l'encyclique qui rappelle les... enseigne, on peut dire, je pense, de façon infaillible, absolument infaillible, la vérité du rapport de l'homme et de la femme dans la transmission de la vie, qui a été repris et appliqué par Paul VI au cas particulier, dans Humanae Vitae. Eh bien, Pie XI dit en substance, il décrit la situation, et il dit « L'Église, seule debout sur ses ruines, ouvre de nouveau la voie par ma bouche et proclame. Et après, il y a le texte donc, où le Pie XI rappelle la vérité de la nature, parce que justement, l'Église a reçu dans son magistère la grâce de pouvoir la redonner aux gens lorsqu'elle est obscurcie. L'abbé Berthaud, que j'ai eu l'honneur de connaître, un petit chouan fort sympathique et fort intelligent, qui est mort de tristesse, la trahison des clercs et des grands, et de ce qu'il a vu dans les sessions du Concile, non pas des textes du Concile, mais ce qu'il a vu dans les sessions du Concile. L'abbé Berthaud disait, nous sommes à une époque où, depuis le Concile Vatican I, l'Église enseigne infailliblement des vérités naturelles. Alors, autrefois, elle ne le disait pas, parce que tout le monde était plus ou moins d'accord, enfin, il n'y a pas moins besoin, et du moins dans certains domaines pratiques, mais là, sur l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la morale sexuelle, les grands axes, les très grands axes de la morale politique, etc. Donc, il y a quelque chose de très impressionnant. Et moi, je pense que, vous voyez, à une période, vous savez que certains d'entre nous avons été, disons, dissidents, au point de vue canonique, et ça a duré un certain temps, mais je me souviens, donc nous étions très critiques vis-à-vis des détenteurs actuels du magistère, mais une chose qui nous impressionnait, c'était que, justement, à partir de l'humanité, même un peu avant, et jusqu'à l'époque, ces années 80, à ce moment-là, constamment, le magistère enseignait des choses qui ne leur apportaient rien. Sur la morale sexuelle, sur les grands axes de la loi naturelle, c'était affirmé avec une force très nette, très claire, et d'une façon constante, de Paul VI jusqu'à Jean-Paul II, et Benoît XVI évidemment inclus. Alors là, il y a un signe de crédibilité. Pourquoi ces gens qui sont intelligents, qui sont gagnés un peu par l'ambiance démagogue du monde moderne, enseignent-ils une chose qui va leur faire perdre des gens? Parce que Paul VI, il aurait bien aimé enseigner autre chose, paraît-il. Hein. Mais il dit, mais je suis le pape, je suis obligé d'enseigner ça. Donc il y a quand même un signe du divin. Là, oui. Donc, voilà. Et puis dans le domaine culturel, l'Église, je crois, a inspiré la plus haute des civilisations. Hein, donc c'est là où on peut mettre la vocation féminine plus dans le domaine culturel que politique. Enfin, il y a les deux. La plus haute des civilisations, bon, nous avons vu avec le diaporama du frère Vincent, quelque chose de ça. Monsieur l'abbé de Malraix fait des très beaux CD aussi. Il y a toute une recherche qui est l'apologétique par la voie de la beauté, et c'est vrai que la beauté des arts chrétiens, avec leur immense variété, a quand même une touche particulière qui, justement, est catholique. Vous voyez, je crois que quand vous voyez des grandes statues du pharaon ou des bouddhas extrêmement impressionnants, il y a un élément qui est donné, l'immutabilité, l'insensibilité, l'impassibilité, une paix un peu étrange, celle des bouddhas. Hein. Bon, mais il n'y a pas l'ensemble. Quand vous voyez un visage de saint dans certains types d'art, romans et autres, ou même enfin dans les représentations symboliques de l'iconographie byzantine, ou même dans l'art de la contre-réforme, il y a quand même des choses assez extraordinaires. Enfin, je me souviens d'un dominicain qui était un. J'avais fait un compte-rendu dans un de ses bouquins de métaphysique. J'avais jamais vu ce dominicain. Et ce bouquin m'avait tellement enthousiasmé, j'avais dit, mais certainement on sent vibrer là l'âme d'un contemplatif, comme le regard de Saint-Dominique ou de Saint-Thomas sur le crucifié de Fra Angelico. Et il m'a répondu en disant, à 15 ans, c'est en voyant ce tableau que j'ai dit, je rentrerai dans l'ordre de cet homme-là. C'était Saint-Thomas. Hein. Donc le regard de Saint-Thomas sur le crucifié. Bon, je l'avais deviné avec son bouquin de métaphysique. Pourquoi? Parce que dans ce regard, Fra Angelico a mis vraiment beaucoup de choses. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'art chrétien, et même dans la musique. Donc c'est, voilà, ça c'est des choses qu'il faut revendiquer et qu'il faut parcourir. Parcourir, enfin même plus que ça, se documenter, on a de bonnes choses hein, dans la littérature actuellement là-dessus. Et puis l'unité catholique. Bon, on insiste sur les divisions, on souligne ce qui ne va pas. Hein, par exemple, c'est assez classique de mettre en lumière les scandales de mœurs, il y en a même dans le clergé, malheureusement, c'est très grave, parce que ça revêt un caractère sacrilège d'autant plus scandaleux pour l'Église. Bon, il ne faut pas les nier, c'est vrai, mais il faut aussi dire à côté de ça le positif, oui. On fait les gros titres des journaux en disant « bon, il y a un scandale de mœurs d'un évêque ou de je ne sais quoi », mais on ne met pas un gros titre dans France Soir « aujourd'hui, 300 000 prêtres ont gardé les promesses de leur ordination », ce qui est quand même le cas, quoi. Pourquoi on ne le dit pas? Ben parce que ça joue contre les calomnies ambiantes. Mais... Vous voyez, quelquefois les gens disent, moi je commence à être assez vieux, enfin je suis moyennement vieux, quoi, mais je suis assez vieux pour me rendre compte, je suis plus vieux que les jeunes. Et alors, les gens disent, ouais, mais les mecs qui vont à la messe, ils sont pas meilleurs que les autres, etc. Ben, je suis pas d'accord. Je vous ai dit, étant établi que la répartition des cinglés, des kikineurs est isotrope, c'est pas vrai que ceux qui vont à la messe sont pas meilleurs que les autres. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai de dire les chrétiens sont pas meilleurs. Les chrétiens qui sont chrétiens, c'est qui ont la foi, qui pratiquent leur religion, ils ont quelque chose de plus. Je suis désolé. Il faut être objectif, il faut pas non plus pousser la flagellation au point de nier la vérité. Eh bien, ils ont entre autres cette chose, c'est qu'il y a une unité catholique. Oui. La communion, la vraie communion dans l'Église est vraiment une marque de la divinité. Une immense société qui fait actuellement plus d'un milliard, enfin, dans les archives de catholicité, il y a plus d'un milliard de catholiques inscrits, d'hommes de toute culture. Et c'était, moi, ça a été une grande découverte quand j'ai pu commencer un peu à, enfin, comme prêtre, comme religieux, à voyager, à voir des, soit à Rome, dans les maisons du clergé, on rencontre des gens de tous les horizons. La dernière fois que j'y étais, j'ai calculé, il y avait peut-être une vingtaine de nationalités, différents continents, cultures, leur richesse de langue. Bon, bah, tous ces gens-là, ils professent le même credo. Et c'est pareil avec le, l'autre jour, il y avait un de nos frères qui allait avec un pèlerin de Dieu, un peu un pèlerin russe, mais latin, qui chante dans les rues avec une guitare, et donc un de nos frères l'a accompagné pour parler avec les gens. Bon, ben, ce gars-là, il a le même credo que le cardinal Bertone, que de, voilà. C'est extrêmement impressionnant. Moi, ça m'impressionne beaucoup parce que quand vous regardez de près le credo, qui est quelque chose dont, je pense que ça sera le thème un peu du prochain JC, c'est absolument fascinant de voir que sur des notions comme la nature et la personne, sur lesquelles il n'y a pas deux profs de Sorbonne qui sont d'accord, parmi ceux qui comprennent ce que c'est, quoi. Donc ça restreint des là, mais il n'y en a pas deux. Eh bien, il y a un milliard de gens qui disent, voilà, dans le Christ, il y a deux natures et une personne. Dans la Trinité, il y a une nature et trois personnes. Alors, bien sûr, on ne saisit pas tous les tenants aboutissants métaphysiques, mais enfin, on y adhère. Et si on voyait que c'était absurde, on n'y adhérerait pas, ce serait un péché mortel d'y adhérer. Il y a un milliard de personnes, enfin, parmi ceux, là-dedans, il y a comme plusieurs centaines de millions qui ont vraiment la foi, pas tous, malheureusement, qui adhèrent à ça. Ils sont de différentes races, de différents niveaux intellectuels, de différents régimes politiques, de différents contextes historiques, la persécution, l'abondance, etc. Et ils sont maintenus par la communion catholique dans l'unité de doctrine, de culte et de gouvernement. L'unité de culte, c'est qu'ils reconnaissent les mêmes sept sacrements. C'est pas qu'ils ont tous le même rite. Dans l'unité de culte, c'est ça. Et puis, et la validité des sacrements reconnus par la catholique, par l'Église. Et puis, le gouvernement, ils sont soumis aux pasteurs légitimes dans la sphère de leur juridiction lorsque ces pasteurs ne commandent pas quelque chose qui est contraire formellement, clairement, à l'ordre d'un supérieur plus élevé qui, ultimement, peut être Dieu. Donc, il y a une unité de gouvernement, quelque chose de très beau, et qui donne une immense liberté. Moi, j'ai été très frappé, j'étais obligé d'étudier le droit, je ne suis pas juriste de formation, mais plutôt littéraire ou scientifique, si vous voulez, ou philosophe, comme on veut, mais en tout cas, je connaissais peu le droit, mais j'ai découvert ça avec béatitude, comme quelque chose de très libérant dans le droit canon, dans les constitutions. C'est quelque chose, vraiment, c'est la norme de l'agir raisonnable, et c'est une dose de liberté, vous voyez, impressionnante. Je crois qu'on ne se rend pas compte, si on a un peu étudié le totalitarisme, l'anarchie, le marxisme avec ses différentes sous-variantes qu'on a eues, qu'on fleurir sous nos yeux avec les pavés en 68, on a donc regardé ça d'assez près, on est effrayé, si vous voulez, où vous lisez le Goulag ou les témoignages sur le Laocai, de ce que c'est que la fausse unité, la contre-unité, si vous voulez, diabolique. C'est-à-dire que l'unité catholique, c'est la liberté. C'est comme, il y a une chose minimum, et puis après, c'est fait ce que voudra, enfin, dans la limite de la foi et des mœurs. Hein. Mais c'est magnifique. Moi, j'ai été très très frappé par ça. Vous voyez, parce que c'est vrai que quand on applique vraiment les grandes directives du droit, c'est très humain, ça tient compte des cas particuliers, il y a la coutume, il y a les dispenses, c'est une tradition dominicaine, ça insiste beaucoup sur cet aspect-là, à la suite de saint Thomas, c'est quelque chose de très très enrichissant, et il y a des milliards de gens qui vivent sous ce gouvernement de l'Église, qui tâche de s'adapter à chaque cas. Moi, un témoignage que je peux rendre, c'est que j'ai été à Rome assez fréquemment, à partir des années 80, du début des années 80, à l'époque j'étais dissident, donc assez critique si vous voulez, mais j'ai été frappé par la fraternité, au bon sens du terme, l'accessibilité des cardinaux. Notre amie allemande qui nous pilotait, parce qu'on avait une amie qui avait travaillé dans les services de la curie, disait « Ah, mais mon père, les cardinaux, il n'y a pas de problème, c'est les grands frères et tout. Au téléphone, on va prendre le thé avec eux, si on les connaît, pas de problème. » Vous voyez, alors que pour être reçu par un ministre ou par le président de la République, il y a un peu plus de barrage, ce qui est peut-être logique, mais enfin, c'est quand même assez frappant. Moi, j'ai été frappé de voir qu'il y avait des gens qui travaillaient là, ils étaient assez peu nombreux. Par exemple, j'ai fait une enquête dans les archives de l'équivalent des affaires étrangères. J'ai donc eu affaire à un monseigneur absolument charmant, qui m'a dit, vous voyez, nous sommes très occupés, parce qu'il y a actuellement un sommet arabe, c'est dans les années 80, enfin, la fin des années 80, et toutes les diplomaties du monde recourent à nous, croyant que nous savons tout. Mais sachez que nous sommes 80, ou nos homologues du Quirinal, donc l'État italien, sont 800. Et 80 personnes qui souvent travaillent 12 heures par jour et payées pas très cher, quoi. Et qui habitent pour les cardinaux, dans les cages à cardinaux, qui ne sont pas forcément, qu'on appelle les cages à cardinaux en plaisantant, pour ceux qui n'ont pas de ressources personnelles, mais ils ne travaillent pas pour du fric, je peux vous garantir. Et ils reçoivent même des dissidents, parce que vraiment, moi, j'ai été reçu par eux, quoi, à l'époque. Hein. Donc il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, cette unité, c'est magnifique. Je signale au passage, à propos de la communion, il y en a quelquefois un petit peu marre hein, sur la communion. Parce qu'il y a des gens qui nous cassent les pieds, est-ce que vous êtes bien en communion avec les pasteurs légitimes ? Alors je dis, bon, attends, est-ce que tu portes l'habit ecclésiastique? Est-ce que tu as étudié saint Thomas? Est-ce que tu connais le latin? Ah ben non, c'est pas ma culture et tout. Bon, alors je me demande si t'es toi en communion. Parce que tout ça, c'est dans le code de droit canon dans Vatican II. Alors moi, je porte l'habit ecclésiastique, j'ai étudié le latin, je connais un peu saint Thomas. Après, on va discuter sur d'autres choses, les éléments facultatifs de la communion. Il faut réagir un peu contre ça. Hein. Les gens qui demandent si on est en communion, souvent ils ne croient pas à l'Immaculée Conception, pour certains d'entre eux, surtout pas au primat de juridiction du pontife romain, et certainement pas au caractère sacrificiel et propitiatoire du sacrifice eucharistique. Donc, calmos. Hein. Donc, on nous fiche la paix, et on rend service en disant, non pas un gros mot, parce qu'on m'enregistre de toute peur, mais en disant, je vous entendrai là-dessus plus tard. C'est dans les révélés, c'est... Bon, donc une unité merveilleuse, vous voyez, l'unité qui réunit les dominicains et les jésuites au sein de la mère Église, entre autres. Hein. Alors cette unité porte sur des points ardus pour l'intelligence, le dogme, on vient de le dire, la volonté, la morale, et elle se fait autour d'un sacrifice mystérieux, la messe. La messe est vraiment le centre de l'unité. Or, ça nous dépasse vraiment de tous côtés. Quand on assiste à une belle liturgie occidentale ou orientale, on est frappé par ça. On rentre dans un mystère qui nous dépasse. Et elle intègre des contrastes, mais non des contradictions. Et il y a beaucoup de domaines qui sont libres. Vous voyez, on peut avoir des options variées. Elle est de droit catholique. Hein, c'est ça qui est séduisant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ou bien, mais elle intègre et en mettant chaque chose à son juste milieu. C'est-à-dire qu'elle est universelle et organique, c'est ça le catholicisme, et en son centre dans le primat de Pierre, qui est quelque chose de libérant, je pense, comme le voyait mon ami agnostique dans l'impact politique, et comme nous le savons, nous, au point de vue spirituel. Puisque nous sommes spécialement redevables, notre petite fraternité, nous étions 9 quand ce souverain pontife nous a érigé de droit pontifical. Donc on a un peu battu tous les records, on a été vraiment très étonnés, parce que même Don Guérangis était un peu plus directement de droit pontifical, ce qui n'est pas dans les normes habituelles, pour nous permettre d'exister, sinon on aurait été étouffés. Vous voyez, cette liberté affectueuse, enfin de... Voilà, donc on est très reconnaissant au primat apostolique de ce qu'il fait. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on trouve le pape bien dans tous les éternuements du petit déjeuner, ou parce qu'il a les yeux bleus ou pas. Enfin, il ne faut pas être papolâtre au sens débile du terme. Il faut être obéissant, ce qui est beaucoup plus exigeant. Parce que l'abbé Berthaud disait, le pire ennemi de l'obéissance, le pire défaut, c'est la complaisance d'esprit qui fait du supérieur dans les domaines de soi soumis à la raison et la conscience, la norme de la vérité. Donc la complaisance d'esprit peut être dangereuse. Mais il ne faut pas non plus être un révolté ou un malpoli, bien entendu. Et alors après, le dernier élément, c'est la stabilité. Nous allons retrouver Pascal. On a failli vous en dire du mal à propos de, à juste titre, et à propos du Dieu des philosophes qui ne serait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ça, c'est une phrase vraiment malheureuse. Des formules, ça y est, des gens qui ont un peu le génie de certaines formules malheureuses, comme Charles Maurras, par exemple. Je dis pour énerver certains. Et puis Pascal, quoi, qui est un génie, et qui est, là, c'est vraiment, il a juste dit ce qu'il fallait pas dire, quoi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu que la raison découvre, mais évidemment, on en apprend beaucoup plus de choses sur lui. Mais il n'y a pas, les musulmans n'adorent pas quelque chose de différent du créateur du monde, hein. Il faut quand même bien être carré là-dessus, sinon ça veut dire que la raison humaine n'a aucune portée. Donc le Dieu des philosophes nous est dévoilé dans l'Alliance comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et attention, c'est très très important ce point-là, parce que sinon on tombe dans le fidéisme, qui est une chose abominable. Donc le catholicisme a une certaine stabilité, une stabilité impressionnante. J'ai recopié le passage de Pascal dans les Pensées, en mettant le numéro de l'édition, les numéros de l'édition la plus connue, Braunschweig. Cette religion qui a toujours duré, donc c'est le christianisme, a toujours été combattue. 1000 fois, elle a été à la veille d'une destruction universelle. Enfin, relisez les textes des scientistes du XIXe siècle, ou des Jacobins de la fin du XVIIIe. C'est impressionnant. Ou même maintenant, les gens qui prédisaient que l'Église allait complètement, quand Jean-Paul II a été à Compostelle, il y a des gens qui ont écrit le rêve de Compostelle, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis bon, il s'est quand même passé un certain nombre de choses. Et malgré tout, elle continue. Et toutes les fois qu'elle a été dans cet état, Dieu l'a relevée par les coups extraordinaires de sa puissance. Les états périraient si on y faisait plier souvent les lois à la nécessité. Quand on étudie par exemple les dynasties des pharaons, on s'aperçoit tous les grands changements, ou même en Chine, toutes les dynasties quand même très différentes qui pouvaient se succéder avec un fond commun, c'est vrai. Mais comme l'État, les lois changeaient. Mais jamais la religion n'a souffert cela, et n'en a usé. C'est que les lois fondamentales de la religion catholique sont toujours restées les mêmes, n'en déplaise aux historiens bornés, qui ne font pas une lecture profonde de l'histoire, qui voient qui s'obnubile sur des changements accidentels et des applications et qui ne voit pas la continuité substantielle, par exemple, de la pensée de l'Église sur l'ordre politique ou l'ordre sacramentaire, etc. Donc elle n'a jamais changé. Et c'est impressionnant, c'est la première voie qu'on étudiera peut-être l'année prochaine. On voit vraiment dès le début, dès la fin du 1er siècle, dès le début du 2e, on aperçoit l'épiscopat monarchique, l'Église fondée sur des gens qui se prétendent successeurs des apôtres, qui ne prétendent qu'une seule chose, c'est transmettre la doctrine des apôtres. Donc elle n'a pas changé, vraiment, et qui disent, vous lisez, quand vous lisez Ignace d'Antioche ou Léon XIII, vous êtes dans le même patrie spirituelle. C'est formidable, c'est génial. Ou Saint Éphrem de Syrie, ou Saint Athanase d'Alexandrie, ou que sais-je, avec toutes ces cultures, ces gens qui s'expriment de façon souvent sublime et qui disent la même chose et qui nous font entrer dans le mystère chrétien sous différents aspects. Et aussi, dit Pascal, il faut ces accommodements, il faut que les états changent pour continuer à durer, ou des miracles, soit l'un, soit l'autre. Il n'est pas étrange qu'on se conserve employant, quand on change, évidemment, on peut se maintenir, mais on n'est plus le même, on a supprimé son identité, et ce n'est pas proprement se maintenir, ce n'est pas le même être qui s'est maintenu. Et encore périssent-ils les états, finalement, entièrement, il n'en est point qui ait duré 1000 ans. Et si vous regardez en effet les grandes dynasties, la domination des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, etc., des Romains, c'est à peu près 1000 ans, hein, même pour l'Empire romain d'Orient. Bon, il n'en est pas qui ait duré 1000 ans. Mais que cette religion se soit toujours maintenue et inflexible, cela est divin. Je crois que c'est un argument qu'il faut méditer, parce qu'il est porteur. Et il est porteur, il est éloquent au point de vue historique. L'Église est la seule société qui existe aujourd'hui, qui existait telle qu'elle il y a 2000 ans. Mais en plus, il y a un signe, vous voyez, miraculeux de l'apostolicité. Depuis les apôtres, il y a constance de la hiérarchie, constance de la doctrine, constance de la communion sociale. Donc c'est extrêmement impressionnant de voir dans les grands témoignages, par exemple sur le primat de Pierre, qu'il est attesté de façon extrêmement ancienne dans la continuité immédiate des pères apostoliques. Pour qui reconnaît que Jésus a fondé la religion définitive, donc ce qu'on a vu dans la conférence de l'abbé Robin, il y a le fameux argument de prescription de Soloviev, qui a été à l'origine de sa conversion, donc un intellectuel russe. Il y a eu au 19e, au 20e, un grand mouvement de conversion, des Russes, des Anglicans et d'autres groupes chrétiens, qui, attirés par la stabilité de l'Église, sont venus vers elle. Alors Soloviev disait ceci, « La parole du Christ ne pouvait rester sans effet dans l'histoire chrétienne. » Vous voyez, le Christ a dit des choses, et en particulier des choses concernant le futur. S'il est Dieu, il y a un effet, forcément. Ça a eu un impact, sinon ce qu'il n'est pas Dieu. Bon. Elle ne pouvait rester sans effet dans l'histoire chrétienne. Et le principal phénomène de cette histoire, à savoir le primat juridiction du pape, selon Soloviev, le principal phénomène de cette histoire devait avoir une cause suffisante dans la parole de Dieu. C'est que le fait qu'il y ait cette permanence du primat romain, il faut bien que ce soit fondé dans quelque chose qui justifie dans la parole de Dieu. Qu'on nous trouve donc, dit Soloviev, pour la parole du Christ à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église », un effet correspondant autre que la chair de Pierre. Le Christ a dit à Pierre, « Tu es Pierre », et alors bon, l'analyse littérale est tout à fait explicite, c'est un jeu de mots mais tout à fait éloquent, et vraiment c'est toi dont je vais faire le fondement permanent de mon Église. Alors où est l'effet de cette parole si le siège romain n'est pas le véritable siège des successeurs de Pierre? Le Christ nous aurait raconté des histoires. Et donc on trouve un effet correspondant à la sphère de Pierre, et qu'on découvre pour cette chair une cause suffisante autre que la promesse faite à Pierre. C'est-à-dire comment les papes ont-ils pu se maintenir dans l'Église, eux qui ont eu tellement il y a eu très très grands papes, nous avons dans la modernité des profils de papes très considérables, mais il y a eu aussi des papes beaucoup plus discutables, de mœurs tout à fait contraires à leur profession, et même quelquefois avec des complaisances ou des faiblesses vis-à-vis de l'hérésie, ou vis-à-vis du pouvoir temporel, quand il ne l'avait pas, ou d'un exercice plus ou moins tyrannique quand il l'avait. Mais comment se fait-il que ce soit le recours, que ce soit maintenu, que ça continue, si ce n'est que cette chose-là a été fondée par Dieu? Donc je termine là pour cet exposé des signes qui montrent que l'Église est par elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et un témoignage irréfutable de sa mission divine. Je vous remercie.